Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, mardi 20 décembre 2022, jour férié en Argentine. Ils étaient déjà des dizaines de milliers à acclamer leur champion du monde cette nuit lorsqu'ils ont atterri à Buenos Aires. Et la fête ne fait que commencer. Les héros défileront tout à l'heure dans les rues de la capitale. RTE se veut optimiste. Selon le gestionnaire du réseau électrique, le risque de coupure de courant au mois de janvier est moins élevé que prévu. Formuler ses vœux sur Parcoursup, ce sera possible à partir du 18 janvier, mais dès aujourd'hui, les lycéens de terminale peuvent consulter la plateforme.
Dans cette édition également, les Bleus sont rentrés à la maison, vous le savez. Nos journalistes aussi, ils viendront nous raconter leur Coupe du Monde au Qatar en deuxième partie d'émission. Et ils seront avec nous durant Les Auditeurs ont la parole. Vous pourrez échanger avec eux.
Cette semaine, nous vous faisons découvrir les plus beaux marchés de Noël en région et c'est vous qui votez pour le grand gagnant sur le site RTL. Dans quelques minutes, direction Arras. Bien sûr, jusqu'à vendredi, nous parlons aussi repas de Noël. Avec les produits traditionnels aujourd'hui, le foie gras, dégustation à l'appui, si si. Comme beaucoup d'autres produits de fête, son prix a fortement augmenté. C'est notre question du jour. En hausse de 23% sur un an, allez-vous acheter du foie gras pour les fêtes? Enfin, juste avant 13h, LVT midi, nous irons à Bruxelles pour l'ouverture de l'exposition consacrée à Johnny Hallyday.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole.
Mais avant cela, la météo évidemment avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Un temps gris, pluvieux et doux. J'en ai choisi trois, pardon.
À tout de suite.
RTL midi.
Les Argentins célèbrent leurs héros. Ils ont atterri il y a quelques heures à Buenos Aires. Ils salueront leurs supporters cet après-midi à bord d'un bus à Impérial. Mais dès cette nuit, des dizaines de milliers de personnes se sont massées sur la route de l'aéroport pour saluer les hommes de Messi, Flora Genoux.
Les supporters sont impatients mais heureux. Le gouvernement a carrément déclaré ce mardi férié. Pour Juan Pablo, 20 ans, applaudir les joueurs est une évidence.
Il faut en profiter parce que la prochaine opportunité, c'est dans 4 ans. Et là, peut-être qu'on ne pourra pas gagner et que Messi ne sera plus là. Cette équipe, c'est tout. Notre sang, notre cœur, tout. Le courage.
Depuis la victoire, Martina, 22 ans, est aux anges. Elle raconte avec humour pourquoi elle attend de pied ferme l'équipe argentine.
Moi, je suis un peu amoureuse d'Alvarez. Il me plaît beaucoup. Il joue incroyablement bien. Quand il court, c'est un phénomène. Il est beau. On a le même âge. Et puis, j'ai envie de soutenir l'équipe. On les a tellement vus jouer.
Julian Alvarez, Angel Di Maria et surtout Lionel Messi. À Buenos Aires, les supporters vont enfin voir leurs idoles d'un peu plus près.
Flora Genoux en Argentine pour RTL. Les Bleus aussi ont eu droit à un bel accueil. Hier soir, place de la Concorde, près de 50 000 personnes sont venues leur dire merci. Ce mondial, vous le disiez Pascal, nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'émission avec nos journalistes Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche qui nous ont fait vivre cet événement en direct du Qatar. Eux aussi sont rentrés et on a plein de questions à leur poser.
L'actualité, ce sont aussi de bonnes nouvelles. Le risque de coupure de courant est désormais moins élevé. Je souris parce que pendant 2 mois, on a dit le contraire.
Mais écoutez, RTE, le gestionnaire du réseau, est plutôt optimiste ce matin. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Pour Noël et Jour de l'An, d'abord, aucun souci.
Oui, clairement, pour les 15 prochains jours, RTE se veut optimiste. Les Français font des économies d'énergie. Ça se voit clairement, moins 9% sur les 4 dernières semaines. Il ne devrait pas y avoir de pic de froid dans les 15 prochains jours. Voilà pourquoi le déclenchement d'un signal éco-watt rouge est quasi nul.
Optimisme également, Pascal, pour le mois de janvier, le risque de coupure est beaucoup moins important.
Absolument, nous étions jusque-là en risque élevé. Nous passons en risque moyen. Alors concrètement, un risque élevé, c'est entre 0 et 5 signaux éco-watt rouge et les coupures qui vont avec, évidemment. Un risque moyen, c'est entre 0 et 3 coupures. C'est déjà beaucoup mieux. Trois raisons à cela. La première, c'est que les Français ont moins consommé, on vient de le dire. La deuxième, c'est que les stocks hydrauliques dans nos barrages se sont reconstitués et que le redémarrage de nos centrales est conforme au calendrier. Et enfin, troisième raison, ce sont les échange d'électricité avec nos partenaires européens qui fonctionnent plutôt bien.
Alors, merci pour ces bonnes nouvelles Arnaud, mais attention, nous sommes d'accord, il y a une condition, que l'on continue nos efforts.
Tout à fait. Cette nouvelle prévision pour janvier ne fonctionnera que si nous continuons à rester vigilants. Et ça marche effectivement pour le moment.
Merci Arnaud Touche. Pour RTL, y aura-t-il des trains à Noël, en particulier des TGV? Les syndicats maintiennent leur préavis de grève pour le week-end prochain sans appeler à la grève. Concrètement,
ça m'a échappé,
qu'est-ce
ça.
Que cela veut dire pour les voyageurs, nous aussi? Première prévision de trafic cet après-midi.
Parcoursup, ça démarre aujourd'hui. La plateforme pour l'accès à l'enseignement supérieur est ouverte à la consultation.
Alors, ce n'est pas encore le moment de formuler ses vœux d'orientation. Ça, ce sera à partir du 18 janvier. Mais la période qui s'ouvre aujourd'hui est malgré tout très importante pour les élèves de terminale, Marie Guerrier.
Oui, parce que c'est le moment de s'informer sur les formations qui vous intéressent ou pourraient vous intéresser. Sur la plateforme Parcoursup, les fiches descriptives de 21 000 formations, dont plus de 7 500 en apprentissage, sont disponibles avec les débouchés professionnels. Vous saurez comment elles examinent les dossiers de candidature, sur quels critères. Les établissements indiquent les dates de leurs portes ouvertes, le numéro de téléphone à référence si vous êtes en situation de handicap. Et quand vous cliquez sur une formation, des formations similaires vous sont aussi proposées pour élargir vos choix. Ensuite, à partir du 18 janvier, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme, créer votre dossier et vous aurez jusqu'au 9 mars pour formuler vos vœux d'orientation. Il faudra les confirmer d'ici au 6 avril.
Marie Guerrier, notre spécialiste éducation à RTL. Aux États-Unis, c'est une première pour un président. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole recommande à l'unanimité des poursuites pénales contre Donald Trump. Donald Trump qui voit là une manœuvre pour l'empêcher de se présenter en 2024, c'est ce qu'il dit. C'est désormais en tout cas au ministre de la Justice de décider si oui ou non il y a poursuite.
RTL Midi.
Le Covid déferle, mais cette fois c'est sur la Chine.
Oui, plus exactement depuis la levée des restrictions très strictes, on en a beaucoup parlé. Cette levée de restrictions, elle a eu lieu il y a 3 semaines et depuis le nombre de cas explose, le nombre de morts également, Hugo Aubry.
D'interminables files d'attente se forment devant les pharmacies de Pékin où l'on ne trouve plus ni médicaments contre le Covid, ni autotests. Un peu plus d'une semaine après la levée brutale des restrictions anti-Covid, les infections grimpent en flèche. Le gouvernement chinois refuse de donner un bilan précis, mais à Pékin, plusieurs sondages indiquent entre 50 et 60% de la population déjà malade. Les personnes âgées sont les plus exposées à cette vague de Covid qui pourrait faire entre 1 et 2 millions de morts selon certaines estimations. Les pompes funèbres sont débordées, seuls 40% des plus de 80 ans ont reçu leurs 3 doses. Le gouvernement, lui, ne reconnaît que quelques décès. Il s'en tient à son nouveau discours, aux antipodes de ces 3 années de pandémie, affirmant désormais que le Covid n'est pas plus dangereux qu'un simple rhume. Dans plusieurs villes du pays, les autorités ont même demandé aux habitants malades avec des symptômes légers de continuer à travailler, quoi qu'il en coûte.
Hugo Aubry en Chine pour RTL. La météo du jour, bien gris et bien pluvieux, Peggy Broche.
Exactement, on a la perturbation de ce matin qui se décale et on va la retrouver cet après-midi entre la façade atlantique, les régions centrales, l'Île-de-France en allant jusqu'aux Ardennes avec du vent. Autres zones pluvieuses également entre la Méditerranée et les Cévennes avec de faibles pluies et du vent également. Et puis il n'y a que sur la façade est entre l'Alsace et la Corse que le temps est sec et plus lumineux. Tout ça sous des températures extrêmement douces pour la saison. 9 à Strasbourg et sinon je vais vous donner que des températures à 2 chiffres, donc c'est plutôt sympa. 10 à Rouen, 11 degrés à Orléans, 12 à Paris, 13 à Grenoble, 14 à Bordeaux, 15 à Lyon, 16 à Toulouse et même jusqu'à 17 degrés à Toulon.
Et je crois que vous avez même le temps d'aller prendre un petit grog si vous voulez.
Oui, ça me ferait du bien pour retrouver ma voix, c'est clair.
À tout de suite Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour, cette semaine, les correspondants RTL en région proposent leur coup de cœur du meilleur marché de Noël. C'est vous qui élisez le grand gagnant sur notre site rtl.fr.
Et nous prenons la direction de la ville de Noël d'Arras, dans le Pas-de-Calais, en partenariat avec le quotidien La Voix du Nord. Arras, dont la réputation n'est plus à faire, un grand marché de fêtes au charme fou. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal.
Alors c'est parti Franck, vous nous faites visiter ?
Eh bien, cette ville de Noël d'Arras qui s'étend sur ces magnifiques places pavées aux façades flamandes, c'est d'abord un cadre somptueux au pied du beffroi illuminé, une centaine de chalets, un carrousel, la grande roue. Les visiteurs sont sous le charme.
L'univers de Noël, c'est magique. Dans la région, pour moi, c'est Arras.
C'est joli, il y a plein de trucs pour s'amuser et tout.
Les décors sont superbes.
C'est vivant, quoi. Les gens sont sympas. C'est l'esprit du Nord.
Avec toutes ces animations, ce marché de Noël est plus aéré. Fabien Cousin, le directeur de la culture à la ville d'Arras.
d'Arras. On travaille beaucoup l'esprit Winterland avec des attractions, avec une grande roue, patinoire, des manèges pour les enfants. Et puis après, des produits locaux, des produits artisanaux. Et puis surtout, une découverte de notre patrimoine, de notre ville, qui est juste magnifique.
Place des Héros, Angélique Codic, avec ses bonnets de Noël, est une fidèle.
Ça fait 25 ans que je fais le marché de Noël d'Arras. Là, on a développé aussi les pulls de Noël qui sont tendance. Le cadre des arcades, il est magnifique. On est content de la fréquentation.
Oui. Et les festivités durent jusqu'au 30 décembre.
Dans tous ces chalets, quels produits vous nous conseillez ?
Alors pour se réchauffer, je vous propose quelques spécialités du Nord. D'abord une petite soupe d'endives, des chicons comme on dit ici, que nous prépare dans son chalet Stéphanie de la ferme des Chiconettes.
On fait des transformations en velouté d'endives. Vous pouvez retrouver aussi des vinaigrettes et des confits d'endives. On ne peut pas plus local au niveau des produits régionaux. Un petit secret de recette, c'est qu'on ajoute de la vergeoise. Ça adoucit l'amertume de l'endive.
C'est un plaisir de vendre ici sur le marché de Noël.
C'est un réel plaisir.
Et puis une petite touche de sucré avec ses gourmandises d'Arras, les gaufres de Laurent Wizrat.
La gaufre de Liège, plus épaisse avec du sucre, qui caramélise à la cuisson, une spécialité du Nord. Il faut du sucre, du lait, du beurre. Tant qu'il ne pleut pas, ça va. S'il fait froid, c'est très bon.
Dans les allées, sur le tapis rouge, il y en a en fait pour tous les goûts.
Alors attention Franck, pourquoi pour vous, ce marché de Noël du Nord est le meilleur ?
Pourquoi c'est le meilleur ? Parce que, je vous le disais, c'est un décor unique, avec ce patrimoine historique, des chalets qui ne sont pas tous concentrés au même endroit. Du coup, à Arras, on n'est pas vraiment entassé. Même si tous les commerçants, c'est vrai, ne sont pas tous locaux, c'est vraiment ici l'esprit de Noël, magique. Des attractions pour la famille, tous les gens me disent « on s'y sent bien, tout simplement ». Et puis, c'est l'esprit du Nord, hein, chaleureux. Nous, on choisit donc Arras et on compte sur vous.
Merci Franck. Reportage et photos à retrouver sur notre site rtl.fr où je vous rappelle que les votes sont ouverts pour élire le plus beau marché de Noël.
Et à midi 11 précisément, c'est toujours le marché de Kaisersberg dans le Haut-Rhin qui est en tête devant celui d'Arras et celui d'Aubernay.
Dans un instant, blinis, fruits de mer et foie gras. Pourquoi votre repas de Noël vous coûtera plus cher cette année ? Pierre Hermulot vous explique tout.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Noël subit aussi l'inflation. Le repas du réveillon ne va pas y échapper. Plus 15% sur un an d'après le dernier panier RTL. Panier un peu spécial à l'heure des fêtes de fin d'année, forcément. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service économie. À la place des pâtes, du sucre et du café habituel, vous avez rempli le panier RTL de beaucoup de produits plus festifs, on va dire ça
oui,
comme ça.
Voilà, absolument. En fait, j'ai remplacé la traditionnelle liste de courses, nos 13 produits du quotidien, par 13 produits festifs. C'est un peu les indispensables de la taille de la table du réveillon. Alors, j'ai mis des petites choses pour l'apéritif.
Quand vous dites indispensable, pour les gens, je l'ai dit déjà hier, mais qui ont un certain niveau de vie quand même.
Parce que
blinis, foie gras et...
Alors, blinis, ça coûte 2,50€. Oui. Donc, on peut en acheter, effectivement, quand on dit foie gras, saumon fumé, ou alors un chapon, tout le monde ne peut pas forcément s'en offrir. Après, il y a des volailles qui sont moins chères, mais on aura le temps d'en discuter. J'ai mis un plateau de fromage dedans, j'ai mis une bûche. Alors là, c'est pareil, il y a un petit peu tous les prix. Voilà, en fait, l'idée, c'était d'avoir une espèce de liste de courses type d'un dîner du réveillon. Alors, j'ai choisi pour 8 personnes parce qu'on est quand même en famille la plupart du temps. Et puis, j'ai relevé les prix dans 3 grandes surfaces différentes. Alors, j'ai relevé les prix de cette année et de l'année dernière pour pouvoir comparer.
Et le verdict est assez clair, forte inflation, 15% d'augmentation.
Oui, c'est ça. Notre dîner du réveillon qui coûtait 189€, donc effectivement, Pascal, c'est un sacré budget l'année dernière, en coûte 217 cette année. Donc 28€ de plus, ça fait effectivement 15% d'augmentation. Pour
25€ par personne en gros.
Voilà, c'est ça, à peu près, pour exactement la même chose. C'est-à-dire que on pourrait s'imaginer, avec 28€ de plus, s'acheter peut-être des produits de meilleure qualité, en plus grosse quantité, si jamais on a vraiment très faim, mais il vaut mieux pas trop acheter, parce qu'on achète toujours trop, de toute façon, à la fin de l'année. Voilà, je vous ai de toute façon tout détaillé sur rtl.fr, produit par produit, les augmentations en valeur, en volume, en pourcentage.
On commence donc avec les bonnes nouvelles. Quels sont les produits qui augmentent le moins, voire qui baissent ?
Alors, qui baisse, aucun, zéro. Pas de bonnes nouvelles à ce niveau-là, malheureusement. Je sais pas si vous croyez au Père Noël, en l'occurrence, pour l'inflation, c'est un petit peu compliqué. Alors, en revanche, c'est les produits qui augmentent moins ou un tout petit peu seulement. Je vous rappelle le chiffre de l'INSEE, l'inflation dans l'alimentation, c'est à peu près 12% en moyenne, donc tout ce qui augmente moins, on va dire que c'est les bonnes nouvelles. On a trois produits hein, dans notre liste de courses qui sont concernés. D'abord le champagne, j'ai mis deux bouteilles hein, dans mon petit panier, c'est 8% d'augmentation sur un an, ça fait 2 euros de plus par bouteille. Ça commence à chiffrer, mais malgré tout, ça pourrait être pire. Donc ouais. Voilà, on va s'en réjouir. La boîte de chocolat, Pascal, je ne sais pas si vous aimez le chocolat, c'est plus 4% à peine, 45 centimes.
Tout le monde adore le chocolat.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Donc 45 centimes, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, une augmentation limitée. Puis le dernier produit, c'est le plateau de fromage. Alors ça, c'est assez étonnant. Je ne m'attendais pas à le trouver là parce que le lait, les produits laitiers, d'une manière générale, augmentent assez fortement. Et encore plus depuis l'été avec... la sécheresse, les vaches produisent moins de lait, donc fatalement tous les produits laitiers augmentent. Là, en l'occurrence, ça fait plus 70 centimes seulement, alors qu'il y a 4 ou 5 fromages sur notre plateau. C'est comme le chocolat, ça fait 4,5% d'inflation. Sans doute que les enseignes s'organisent pour écoler des stocks. En tout cas, il y a une stratégie qui nous est favorable, donc on peut acheter des plateaux de fromage sans trop se ruiner cette année.
Et de l'autre côté du classement, Pierre, quels sont les produits qui augmentent ?
Alors, la plus grosse augmentation, ce sont les blinis et les toasts. On y revient tout à l'heure. Plus 25%, c'est assez considérable. Alors, si on revient au prix, on passe de 2 euros
oui,
à 2,50 euros.
Blini et toast, ça peut aller.
Voilà, donc on va dire que c'est la plus grosse augmentation en pourcentage, mais que sur le ticket de caisse, on l'encaisse plus facilement et c'est tant mieux. Ensuite, vous avez le plateau de fruits de mer. Alors là, c'est une autre histoire parce qu'on est autour de 24% d'augmentation. Alors en l'occurrence, moi, pour le panier de fête, j'ai pris un petit plateau de fruits de mer parce qu'on a quand même beaucoup de choses à manger. J'ai mis des feuilletés pour l'apéro, des choses comme ça.
Feuilletés à quoi, pardon ?
Alors j'ai mis feuilletés, saucisses, fromage. C'était un assortiment que j'ai trouvé.
Et dans les
trouvé.
Fruits de mer, vous avez mis quoi ?
Alors, fruits de mer, on a des crevettes, on a des bulots, on a une pince de crabe et je crois quelques langoustines.
Vous avez pas fait d'assis quand même des langoustines.
Oui, on a quand même des langoustines. Bon. On passe, alors c'est un vraiment petit format, mais on passe de 12 à 15 euros, donc ça fait là encore 25% d'augmentation. Donc si on voit très bien que si on part sur un gros plateau, tout de suite, ça va chiffrer beaucoup plus. Et puis ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de la volaille. Donc on en reparle. La dinde, le chapon, la poularde, ce qu'on appelle les volailles festives. Là, l'augmentation, elle est quand même très importante. On est autour de 24%. C'est-à-dire que le prix moyen l'an dernier pour une volaille de 2 kilos, à peu près, on va dire,
c'était
pour une personne.
Il nous disait hier.
Oui, alors ça, là, c'est quand même une très jolie volaille. Hein. Ouais. 80 euros, moi, je vous ai dit, je regardais en grande surface. Ramené à 2 kilos, on est plutôt autour de 24 euros cette année.
Ah oui, c'est pas le même prix.
Non, c'est pas le même prix. Bah, ça dépend
notre
si vous l'achetez.
Monsieur Leboeuf, hier.
Oui, Monsieur Leboeuf, il est meilleur ouvrier de France à Paris. Donc, effectivement, il a pas les mêmes tarifs. Il a des très jolies volailles. Là, on parle de volailles de grande surface.
D'accord.
Voilà, il faut remettre les choses à leur place. 24 euros, mais contre 19 l'année dernière.
Bon, et donc, le foie gras pour terminer, parce que le kilo de foie gras, c'est.
Alors, le kilo, alors, j'ai pas le prix au kilo. Je vais vous dire pour 300 grammes. Moi, je passe pour 300 grammes de. Alors, je l'ai plus sous les yeux, mais je vais vous le dire parce que je m'en souviens. On est à peu près à 24 euros aussi. Bon. Et on était à 21 l'année dernière, on fait plus
de
4 euros.
Ça fait 75 euros à peu près le kilo de foie gras.
Ouais, il faut vous dire entre 24 et 30%.
Une tranche de foie gras, c'est combien de grammes ?
40 grammes, mais on ne regarde
mais
pas vraiment
là, vous en,
le
vous
poids.
En parlez, mais vous auriez pu nous apporter quelque chose à manger.
Bah, il y en a en régie, ça arrive, Pascal.
Bah oui. 12h18, parce que là, on ne mange pas, ce n'est pas très agréable.
Attendez, le foie gras arrive.
Ça arrive, Pascal.
Bon, merci beaucoup. Et les auditeurs, bien sûr, pourront nous donner leur plat de fête tout à l'heure. À tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie tous les jours vers 12h20. Et aujourd'hui, votre vie, c'est.
De l'oie, du canard. Les produits traditionnels augmentent cette année.
C'est que l'oie.
Oui, d'accord. Vous avez entendu notre journaliste Pierre Herbulot, notamment.
Ce que nous ayons, l'oie-loie-t-elle ?
Oh, non, on n'est pas bien. Et pourtant, ce n'est pas le vin dont nous parlons, c'est le foie gras. Pour 8 Français sur 10, il est en incontournable des fêtes. Il risque de ne pas être sur toutes les tables cette année, car peut-être un peu trop cher cette année, quoique ce n'est pas le produit qui augmente le plus, Pierre nous le disait. Nous sommes avec Fabien Chevalier. Bonjour, monsieur.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes directeur général de la Maison Lafitte. Pour tout vous dire et pour le dire aux auditeurs, nous sommes en train de déguster vos produits en studio. Et c'est pas mal du tout. En tant que producteur de foie gras, d'abord on va revenir sur le prix. Comment expliquez-vous cette augmentation?
Alors l'augmentation, elle est due simplement à l'augmentation de nos coûts et en particulier de l'augmentation de l'alimentation de nos canards. des céréales qui ont subi pendant l'année 2022 une augmentation complètement inédite. Le maïs en particulier a augmenté d'une façon... jamais on avait vu une telle augmentation.
Mais ça reste évidemment un des produits phares de Noël, le foie gras, symbolique.
Oui, c'est un produit... C'est un produit, alors, à la fois rassurant, c'est un produit plaisir, c'est un produit refuge dans des périodes où il y a une anxiogénité naturelle. Et c'est clair qu'on a envie de se faire plaisir en ce moment et on est débordé par les demandes. Et on n'en a pas assez. Voilà.
Alors, comment reconnaît-on, en profiter quand même pour vous le demander, comment bien choisir son foie gras ?
Alors, ça dépend des goûts de chacun. Il y a des gens qui vont préférer cuisiner eux-mêmes le foie gras, poêler un foie gras. Et là, il s'agira d'acheter un foie gras cru et de le cuisiner soi-même. Donc là,
et de demander à ce qu'il soit dénervé, pardon, si alors, je peux me permettre.
Alors, dévenir ou dénerver, oui, ça dépend quelle appellation on utilise. Mais en effet, il vaut mieux parce que c'est une affaire de spécialiste. Et s'il y a une difficulté dans la préparation d'un foie gras cru, c'est celle-là, donc autant le faire soit par votre boucher, soit par votre artisan, ou l'acheter carrément dévené en grande distribution, puisque c'est des produits qui sont aussi à disposition en ce moment. Par contre, attention, ils vont devenir très très rares dans les jours qui viennent.
Monsieur Chevalier, c'est des questions qu'on n'aurait pas posées il y a 20 ans, mais je pense par exemple à notre ami Julien Courbet qui défend la cause animale. S'il nous entendait en ce moment en train de parler de produits plaisir, comme vous l'avez fait, de produits refuge avec le foie gras, il sauterait au plafond parce qu'il y a des gens que ça choque le gavage des oies et le fait qu'on mange du foie gras. Est-ce que c'est un problème pour vous ?
Alors, écoutez, ce n'est pas un problème pour nous. Ce que je peux vous dire, c'est que notre entreprise, nous, elle a une centaine d'années. Moi, je la dirige depuis 13 ans. On a l'habitude de recevoir des gens et de leur montrer des clients, des cuisiniers, mais aussi des particuliers, hein, de leur montrer nos méthodes de travail. Et quand les gens connaissent, eh bien, tout se passe mieux. Je pense que on souffre surtout d'une ignorance parce que nos animaux, on en prend soin, on les soigne pendant plusieurs mois. Et quelque part, c'est comme ça qu'on obtient un bon produit, que ce soit du foie gras ou un autre produit animal. Ce sont des gens qui prennent soin de leurs animaux pendant des mois et des mois pour obtenir l'excellence.
On le disait, c'est pas toujours évident de cuisiner son foie gras. La majorité, on l'achète tout fait, tout préparé. Comment faire pour être sûr de prendre un bon foie gras ? Encore une fois, je pense, et pas forcément en allant chez un producteur, parce que là aussi, ça a un coût.
Oui, alors...
Je pense en grande surface, aussi, par exemple, hein, pour être très clair.
Là oui, j'ai bien compris. Là aussi... ça dépend de vos goûts. Un produit transformé en foie gras, c'est soit une conserve, donc un produit stérilisé qui va être un peu plus cuit, un peu plus sec, mais qui va être aussi du goût en particulier des Français du Sud-Ouest, ou à un produit mi-cuit, qui va être plutôt un produit plus souple, et qui va être apprécié dans d'autres régions françaises. Ça dépend beaucoup des goûts, des assaisonnements. Moi, je préfère un foie gras nature, un mi-cuit ou conserve. Choisissez un entier, de préférence. L'appellation entier va vous permettre d'avoir un foie gras qui n'aura pas du tout été amalgamé avec d'autres ingrédients. Donc, vous aurez quelque chose de toujours très, très, très
et
bon.
Et en tout cas, il faudra l'acheter, bien sûr, dans votre maison. C'est ce que vous recommandez. Une dernière chose, le prix, peut-être, le prix tout à l'heure, les 40 grammes. Alors, c'est 40 grammes, la portion, disait Pierre Herbulot. 40 grammes de foie gras, le kilo de foie gras, chez vous, c'est combien ?
Alors, ça dépend beaucoup des préparations.
Le kilo de prix moyen.
Le kilo de... Enfin, si vous voulez, une préparation pour... 4 à 5 personnes, en mi-cuit, en 180 grammes, vous en avez pour moins de 30 euros.
Bon, bah écoutez, ça reste raisonnable par rapport à, pour un repas de fête, en tout cas. Bah écoutez, merci beaucoup.
C'est en tout cas très bon.
Oui, merci monsieur Chevalier. Vous êtes directeur général de la maison Lafitte. Nous allons marquer une pause, l'info revient. On va parler foot, bien sûr. Et alors, nos amis, Georges Rowe, Sanfourche, Morad Djebari, ils sont tous de...
Hugo Hamelin,
ils sont tous de retour après 5 semaines passées au Qatar. Ils nous diront comment c'était. Ils vont rester tout à l'heure avec les auditeurs, surtout. Ils pourront échanger. Et puis, tout le service des sports, Jean-Michel Rascol, Isabelle Langer, qui a participé, Eric Silvestro, pourquoi pas, ils viendront nous dire bonjour aussi. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, rebonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h30.
RTL Midi. Le 12h30. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et donc à 12h30, c'est la grande édition d'Agnès.
À la une, un nouveau médicament pour soigner les enfants touchés par la mucoviscidose. Les parents et les associations n'hésitent pas à parler de révolution thérapeutique. Un rassemblement devant la gendarmerie à Blois cet après-midi. Une femme de 24 ans est dans le coma après avoir été battue par son ex-compagnon. Elle n'avait pas pu porter plainte. Pourquoi ? L'IGPN a été saisie. Et puis dans le reste de l'actualité, évidemment, la gigantesque parade des champions du monde en Argentine. 70 km à travers la capitale pour Messi et ses coéquipiers. Début des festivités tout à l'heure à 16h, heure de Paris. Et puis votre rendez-vous culture à 12h50. Nous irons à Bruxelles pour découvrir une grande exposition consacrée à Johnny. Visite en avant-première, s'il vous plaît. La question du jour concerne notre panier RTL. Le foie gras est en hausse de 23% sur un an. Allez-vous en acheter pour les fêtes?
Et tous ces sujets, évidemment, on pourra les aborder avec les auditeurs, spécial auditeurs tout à l'heure, puisque nous serons avec les envoyés spéciaux d'RTL qui ont passé quasiment 5 semaines au Qatar. 32-10.
Et puis la météo à la fin du journal, mais déjà Peggy, un petit indice?
Automnal aujourd'hui, Agnès.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est un véritable cadeau pour ces familles, familles dans lesquelles un enfant est atteint de mucoviscidose. Enfin, les moins de 12 ans vont pouvoir eux aussi bénéficier d'un traitement très performant. Un médicament qui améliore de manière assez incroyable la qualité de vie du patient, Agathe Landais.
Oui, ce traitement de fond s'appelle CAFTRIO. Il se présente sous la forme de comprimés que les patients devront prendre à vie. Il est délivré depuis l'été 2021 aux malades de plus de 12 ans. Il va donc désormais être prescrit à plus de 700 nouveaux petits patients. Cette trithérapie, les associations la qualifient de petite révolution car elle réduit de manière assez impressionnante les effets de la maladie. La mucoviscidose qui touche 7300 patients en France et qui détruit petit à petit les fonctions respiratoires et digestives. Les patients qui prennent déjà ce médicament tous les jours témoignent d'une amélioration considérable de la qualité de vie. Le CAFTRIO leur permet de respirer à nouveau. Elle transforme presque leur pathologie si invalidante en maladie chronique avec des symptômes régulés grâce aux médicaments. On a en revanche très peu de données sur son efficacité à long terme. On rappelle aussi que ce médicament soulage les patients mais ne les guérit pas. Et par ailleurs, la recherche se poursuit pour trouver d'autres traitements pour les 35% de malades qui ne sont pas éligibles à ce traitement.
Agathe Landais du service Qualité de la vie.
RTL Midi.
Que s'est-il passé la semaine dernière au commissariat de Blois pour que l'on demande à une jeune femme de revenir le lendemain pour son dépôt de plainte ?
Victime de violences conjugales, elle n'a pas eu le temps de revenir. Son ex-compagnon l'a tabassée et elle est toujours dans le coma entre la vie et la mort. Cindy Hubert.
Oui, l'IGPN, la police des polices, a été saisie quasi immédiatement de cette affaire. Il faut travailler vite, apporter des réponses, mais sans précipitation, explique une source haut placée, car la chronologie est terrible. 17h mardi dernier, la jeune femme pousse la porte du commissariat. Elle est prête à porter plainte, un dossier sous le bras. 19h, 2 heures plus tard, elle gît au sol dans un hall d'immeuble. Entre-temps, quelqu'un au commissariat l'a donc invitée à revenir le lendemain. Alors, y avait-il un problème d'effectif ce soir-là où les fonctionnaires en poste ont-ils sous-estimé l'urgence de la situation? Les enquêteurs auditionnent depuis plusieurs jours maintenant toute la chaîne de décision des policiers à l'accueil jusqu'au plus haut gradé.
Et nous sommes d'accord sur un point, Cindy. Aujourd'hui, les policiers sont pourtant tenus de prendre toutes les plaintes pour violences conjugales et surtout immédiatement.
Oui, toutes les plaintes qui sont censées être systématiquement transmises à la justice. Et puis, il y a aussi maintenant un cheminement spécifique dans les commissariats, un code couleur spécial, la couleur orange pour les victimes de violences conjugales ou sexuelles. Il suffit pour la victime de montrer du doigt le rond orange au guichet pour être reçue prioritairement, sans qu'elle ait à expliquer devant tout le monde pourquoi elle est là. Puis elle sera orientée vers des policiers formés, un dispositif qui existait à Blois depuis plusieurs mois maintenant.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Éric Dupond-Moretti annonce la généralisation des chiens pour les enfants victimes. Objectif, au moins un animal par département, dit le garde des Sceaux, pour aider les jeunes lorsqu'ils doivent raconter ce qu'ils ont subi. Ce doudou vivant est une aide précieuse.
À la SNCF, les syndicats maintiennent leur préavis sans appeler à la grève, ce qui est une curiosité. Comment savoir si oui ou non il sera possible de voyager sans souci le week-end prochain, surtout à bord des TGV ?
Eh bien, les premières prévisions sont attendues cet après-midi. Si votre train est annulé, vous serez fixé. En revanche, s'il est maintenu, il faudra croiser les doigts pour qu'il continue à l'être jusqu'au départ. Les grèves au Royaume-Uni sont beaucoup plus rares que chez nous. Pour la deuxième fois de leur histoire, les infirmières cessent le travail aujourd'hui. La première fois, c'était jeudi dernier. Elles demandent une revalorisation de leur salaire, Marie Billon.
Trop de travail, pas assez payé. Ce slogan est à nouveau entonné aux abords de dizaines d'établissements anglais aujourd'hui, notamment devant l'hôpital Saint-Thomas à Londres, pile en face de Westminster et du quartier des ministères.
On nous en demande trop et on doit faire des jours en plus pour pouvoir payer les factures. On souffre encore des suites du Covid. Il y a encore beaucoup de collègues en arrêt de travail pour des raisons psychologiques. Ça a été mon cas.
Il y a plus de 46 000 postes à pourvoir en cette fin d'année. Beaucoup d'infirmiers quittent les hôpitaux publics pour aller dans le privé où les salaires sont meilleurs. Les jeunes sont de moins en moins intéressés par la profession. Cela aggrave encore les conditions de travail.
Le manque d'infirmiers est dangereux. Chacun doit surveiller deux fois plus de patients. C'est horrible de savoir qu'à cause de la manière dont le gouvernement nous traite, on pourrait passer à côté de quelque chose de grave pour un patient.
Les syndicats demandent une augmentation d'environ 17%. Le gouvernement a proposé 4,5% en Angleterre et refuse de renégocier. Les partenaires sociaux préparent donc de nouvelles journées d'action pour le début de l'année.
Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. On revient en France avec cette information que l'on apprend à l'instant. Jean Rottner, des Républicains, annonce quitter la présidence de la région Grand Est pour des raisons familiales. C'est son vice-président Franck Leroy qui assurera l'intérim.
Jour férié en Argentine, il faut bien ça pour fêter les champions du monde à Buenos Aires. Ils sont arrivés ce matin au petit matin, il faisait nuit, il y avait évidemment beaucoup d'Argentins pour les accueillir.
L'euphorie ne retombe pas depuis dimanche. Cette nuit, effectivement, sur le chemin de l'aéroport, ils étaient des dizaines de milliers massés pour saluer une première fois les hommes de Messi. Effectivement, ce n'est que le début, Alexandre de Saint-Aignan.
Et oui, rendez-vous compte cette nuit, rien que pour sortir de l'aéroport, direction le camp d'entraînement qui se trouve à 5 km à peine. L'autobus des Argentins a mis plus d'une heure, acclamé par la foule à 4h du matin. Actuellement sur place, là, il est 8h30. Dans quelques heures, Lionel Messi et ses coéquipiers vont remonter à bord de l'autobus à Impérial pour faire une gigantesque parade à travers Buenos Aires, une boucle de 70 km à travers tous les grands boulevards et évidemment l'avenue du 9 juillet, c'est l'équivalent de nos Champs-Élysées, et la Plaza de la Repubblica avec son obélisque. Seules les banques et l'administration fédérale sont ouvertes aujourd'hui dans la capitale argentine, mais uniquement le matin. Le gouvernement a décrété un jour férié en ce mardi 20 décembre pour permettre aux habitants d'accueillir les Campeones del Mundo, les champions du monde, à travers ce chant de supporters relayés sur les réseaux sociaux devenu l'hymne de l'Albicéleste. La grande parade va débuter à midi, heure locale. Il sera 16h ici en France.
Des images incroyables à Buenos Aires. Les Bleus aussi sont à la maison, tout comme nos journalistes qui nous ont fait vivre cette Coupe du Monde pendant 5 semaines. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot seront avec nous dans un instant dans ce studio.
Ils n'ont pas attendu la Coupe du Monde au Qatar pour parier, sauf qu'ils n'en ont absolument pas le droit.
Là, on parle de 76 joueurs, dirigeants et entraîneurs sanctionnés pour non-respect de l'interdiction de paris sportifs pour la saison 2020-2021, et plusieurs titulaires de Ligue 1 sont concernés, est sanctionné, Jean-Michel Rasque.
Oui, 5 joueurs de Ligue 1 précisément ont été punis. Le gardien d'Auxerre, Donovan Léon, est suspendu 5 rencontres, dont 3 avec sursis. 4 matchs, dont 2 avec sursis, et une amende de 1 500 € pour Irwin Cardona, l'attaquant de Brest. Sacha Deley, milieu de Montpellier, et Alexandre Djikou, défenseur de Strasbourg, louperont également la reprise de la Ligue 1. L'entraîneur des gardiens du PSG féminin, Guillaume Lemire, est le plus sévèrement sanctionné. 4 matchs de suspension. À tous, il est reproché d'avoir enfreint la règle qui interdit les paris aux sportifs professionnels. Joueurs, dirigeants, entraîneurs sont tenus par cette interdiction qui concerne aussi bien la Ligue 1 et les championnats étrangers. Le croisement de fichiers entre notamment l'Autorité nationale des jeux et la FDJ permet de révéler l'identité de ces sportifs, parfois tentés d'être parieurs et acteurs, à l'image du scandale qui avait éclaboussé le monde du handball en 2012.
Oui, mais est-ce qu'on a des précisions? Par exemple, le gardien d'Auxerre, est-ce qu'on sait s'il a joué pour son équipe, contre son équipe ou pour une autre équipe de Ligue 1?
On ne le sait pas. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il a joué sur un championnat sur lequel il n'avait pas le droit de jouer.
Que le gardien d'Auxerre joue sur un match de Nantes, par exemple, où il n'est pas concerné, ce n'est pas la même chose que s'il jouait contre sa propre équipe, voire pour son équipe.
Il pourrait influencer le résultat d'un match dans lequel il est acteur. Ce n'est pas le cas, a priori, toujours est-il, qu'ils n'ont pas le droit de parier.
Ça serait vraiment de la triche.
Sur du football professionnel.
Bien sûr.
On en revient à un petit débat, finalement, entre vous deux.
Bah oui, parce que ça nous manquait.
On adore ça.
C'est essentiel quand même pour la morale, si j'ose dire. Il y a la lettre et l'esprit. Voilà.
Exactement.
Et nous, il y a surtout la météo à 12h41 sur RTL. Nous ne sommes pas encore en hiver, hein, sur le calendrier, c'est demain, Peggy.
Ouais, pourtant, c'est dommage parce que c'est bien quand il fait froid.
Mais oui,
Noël,
mais pourtant, c'est un temps automnal.
Il ne va pas faire froid, Noël.
On n'y est pas encore, Pascal. On a eu froid il y a quelques jours.
Oui, mais c'était bien. C'était agréable.
Eh bien, on repasse, on change de temps, finalement, et on revient à un temps plutôt automnal avec des températures, c'est vrai, qui sont très douces, qui sont en hausse, et le retour également des nuages et de la pluie entre la façade Aquitaine, les régions centrales, l'Île-de-France en allant jusqu'aux Ardennes avec du vent. On a une autre zone pluvieuse également entre la Méditerranée en remontant vers les Cévennes avec de faibles pluies accompagnées de vent. Et il n'y a que sur la façade est, en fait, entre l'Alsace et la Corse, que le temps est lumineux. Tout ça donc sous des températures très douces au-dessus des normales, de 9 à Mulhouse jusqu'à 17 degrés à Biarritz, 16 à Marseille, 15 à Tarbes, 14 à Besançon, 13 à Nevers, 12 à Rennes. Il fait 11 degrés prévu cet après-midi à Alençon, 10 à Brest.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure dans un instant. Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche sont avec nous dans ce studio.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Ce centre pour le deuxième poteau, pour la tête, et le but d'Adrien Rabiot. Non, pour le deuxième poteau, pour la tête.
Après plus d'un mois de compétition, de surprises, de sublimes buts, d'émotions, c'est l'heure du bilan, puisqu'ils sont revenus. Ils sont rentrés du Qatar eux aussi, Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
D'abord, ça nous fait plaisir de vous revoir. Vous nous avez fait vibrer. Franchement, vous nous avez fait vibrer. C'est un plaisir de vous écouter. Votre enthousiasme et puis la qualité de, votre information faisait plaisir à entendre. Donc, bravo.
Et surtout, alors
c'est un plaisir aussi de revenir parmi les nôtres, mais cette Coupe du Monde, c'était à la fois, ça on le sait qu'à la fin, mais un moment d'histoire pour le sport français, avec cette finale qui va rester dans la légende. Et puis il y avait tout ce contexte, le Qatar, une Coupe du Monde, pas en plein hiver, mais sur la fin de l'automne et quasiment l'hiver, avec toutes les questions... de société, de vie qui était autour. Et c'est vrai que le fait de témoigner de tout ça, de mêler le sport, la vie, la politique, le social, on avait un peu l'impression d'être au centre de quelque chose qui était sous les yeux, sous le regard de la terre entière, et que notre rôle dépassait un petit peu celui de commentateur sportif et de rendre compte en fait de ce qui se passait et ce dont toute la terre entière parlait, et d'essayer de discerner comme ça un petit peu des morceaux de vérité, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais...
C'est un bilan globalement positif, c'est-à-dire que l'organisation est parfaite, les stades sont somptueux, jouer en hiver, c'était la première fois à l'arrivée, tu t'aperçois que les joueurs sont en meilleure forme, les matchs ont été souvent de très bonne qualité, l'audience était au rendez-vous. Il y a peu de points noirs, je parle en matière de foot,
Ah oui, c'est ça, il faut bien le préciser. En matière de foot, parce que c'est un pays qui a été sous cloche pendant un mois. On a envoyé les enfants à l'école, on a envoyé les gens au télétravail. Donc évidemment, ça circulait plutôt bien. Dans Doha, on avait cette image-là d'un pays qui était tout tourné vers sa Coupe du Monde, avec évidemment l'enjeu d'image qu'il y avait. Maintenant, si vous retournez au Qatar dans 6 mois ou dans 1 an, je serais assez curieux de voir comment tout cela se passe d'un point de vue social. Il faut pas être dupe de tout ça.
Stades, c'est pour
ça
que, par exemple, le stade de la finale, la question de foot, exceptionnel.
Oui,
il n'y a pas l'équivalent quasiment d'un stade comme ça. Mais en Europe.
En fait, la logique dans laquelle on est depuis maintenant plusieurs décennies, de tirer les coups en permanence, quand vous avez 2-3 cabinets d'architectes en France qui se présentent sur des appels d'offres pour faire un stade, bah, au final, on va prendre le moins cher. On va nous expliquer que c'était le meilleur, mais on va prendre le moins cher. Là, la logique, elle est inverse, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur. On prend le meilleur pour le stade, on prend le meilleur pour l'aéroport, on prend le meilleur pour l'hôtellerie, on prend le meilleur pour l'autoroute qui vous emmène de l'hôtel. Donc en fait, vous êtes dans une logique qu'on ne connaît plus depuis les années 60 en France, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a connu, les 30 Glorieuses, la débauche de... On ne connaissait plus ça, donc on a un peu ce sentiment d'un nouvel Eldorado, comme si on était aux États-Unis au moment... C'est Las Vegas, Doha. C'est Las Vegas. La différence, c'est qu'il n'y a pas de machine de jeu et qu'il n'y a pas de jeunes filles en short qui se baladent dans les rues.
Justement, j'allais vous en parler parce qu'avant le début de la Coupe du Monde, on se souvient des petits guides à l'intention des supporters, soi-disant, et des journalistes également, sur la conduite à adopter pour ne pas choquer les Qatariens et les Qatariennes. Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce qu'il a été facile pour vous de boire un verre d'alcool ?
Oui, tout bêtement. Dans notre hôtel, par exemple, notre hôtel, il y avait de l'alcool qui était servi. C'était pas le cas dans tous les hôtels, mais oui, il y avait plusieurs hôtels où il y avait des suiveurs de l'équipe de France et des différentes sélections où c'était possible. Il y a aussi les grands hôtels internationaux. Alors, il y a eu cette polémique avec le Qatar qui a serré la vis à 48 heures de la Coupe du Monde sur ces fameux stands là du sponsor américain pour la bière et donc de pas avoir ces lieux de consommation tout proches des stades. Mais sinon, finalement, c'est pas quelque chose qui a été totalement qui a disparu de la circulation. On voyait des gens. Moi, j'ai vu des gens ivres au Qatar, des Saoudiens, par exemple, qui étaient ivres, qui venaient passer la journée, qui buvaient dans les hôtels et qui reprenaient l'avion le soir pour retourner à Jeddah ou ailleurs. C'était assez.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre dans un pays où les droits humains étaient attaqués?
On peut pas découpler ça évidemment parce que on voyait les gens même s'il y avait beaucoup de chantiers qui étaient arrêtés, mais on les voit ces travailleurs qui peuvent souffrir du soleil, des conditions de travail, des choses là. Moi c'est la quatrième fois que j'y allais. C'était moins visible sur cette Coupe du Monde que par exemple lorsque j'étais en mars, parce qu'ils étaient en train de donner le dernier coup de collier pour que tout soit parfait. Il y avait énormément plus de chantiers, notamment sur les endroits très touristiques. Il y avait cette corniche là, il y avait toutes les rues, toutes les canalisations étaient ouvertes parce que ils voulaient refaire toutes les tranchées sur les canalisations parce qu'ils avaient bouché les canalisations. Je vais donner un exemple. Ils avaient bouché les canalisations pour éviter les rats il y a quelques années. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens, notamment à la FIFA, qui leur ont dit attention, s'il pleut pendant la Coupe du Monde, il y avait 70 ou 80 cm d'eau. Donc il faut absolument rouvrir. Donc ils ont dit bah ok, pas de problème, on va faire les chantiers. Donc ils ont ouvert sur des kilomètres de voiries, c'est pour faire des caniveaux, pour faire ces canalisations là, tout ça on ne l'a pas vu parce que ça a été mis en sommeil, mais oui, autrement il y a toujours ces travailleurs et ces situations.
Vous allez rester avec nous, on ne vous lâche plus. Vos familles étaient contentes de vous retrouver hier?
Oh bah
moyen. Oui.
J'espère quand même.
Oui.
Les enfants sont couchés tard.
Mais oui, les enfants. Oui. Vous n'aviez pas vu votre petit garçon pendant 5 semaines?
Il était
content?
Bah oui, il m'a sauté au cou.
Il vous a appelé tonton. Il y a tonton Philippe qui est de retour. Mais c'est ça la vie des grands reporters. Bon, mais vous allez rester avec nous parce que les auditeurs vont, j'imagine, vous interroger et vont vous poser des questions. Et puis c'est la grande famille d'RTL puisque Morat sera là également, Hugo Hamelin sera là et puis passera Jean-Michel Rascol, Isabelle Langer. On pense aussi à Christian Olivier et Eric Silvestro, tous ceux qui ont animé notre tranche entre 12h et 14h30. Pour le moment, c'est une pause et nous parlons culture dans une seconde.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours, vous le savez, dans RTL Midi. Et aujourd'hui, on part pour Bruxelles.
Ben oui, puisque c'est dans la capitale belge que Coup s'ouvre aujourd'hui. Johnny Hallyday, l'exposition, un projet que porte Laetitia Hallyday depuis 2 ans. 12 millions d'euros de budget. Avant son arrivée à Paris en janvier 2024, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez pu la visiter, cette expo, en avant-première.
Oui, c'est par une porte que débute le parcours. Derrière, une pièce dans la pénombre, casque sur les oreilles. On s'avance, tout à coup. Johnny s'engouffre dans nos oreilles. Un mur à 360 degrés se pare d'images d'entrée en scène de Johnny. La traversée du Parc des Princes, la main qui s'ouvre, la boule d'acier, les souvenirs affluent. Et un long couloir apparaît, comme si on allait pénétrer dans un stade. Or, c'est dans la chambre d'ado de Johnny que l'on atterrit. Nous sommes en 1960, Johnny a 17 ans et vient de débuter sa carrière. Il y a une guitare sur le lit, au mur, ses premières photos professionnelles. Les visages d'Elvis Presley et Brigitte Bardot, un tourne-disque, des vinyles. Dans nos oreilles, c'est Jean Reno qui nous guide.
Il regardait aussi en boucle les films de James Dean. Il mimait ses gestes, sa dégaine, sa manière de sortir ses clopes de son paquet souple, sa façon de les allumer, de vous regarder dans les yeux. Il voulait être comme lui, interpréter des personnages. Il voulait être acteur. Et quand il a vu le film « Loving You » avec Elvis Presley, il a été déçu au début. Il pensait voir un western et quand Elvis s'est mis à chanter « Hound Dog », il a compris. Il voulait être Elvis. Et il est devenu Johnny.
L'exposition n'est pas chronologique, mais thématique. Un halo rouge nous attire. C'est une pièce dédiée à l'Olympia. La salle a même autorisé à ce qu'une mini-façade soit recréée avec les fameuses lettres rouges. On découvre dans une vitrine son contrat pour l'année 1967, signé par Bruno Cocatrix. 6000 francs par jour y est-il inscrit à la main. En 67, Johnny avait chanté 44 soirs à l'Olympia, moins qu'en 1964, où il s'y était produit 57 fois.
C'est beaucoup, hein, 6000 francs par jour en 1967.
Imagine, ouais.
On sort de l'Olympia pour entrer au cinéma, Steven.
40 films ont jalonné la carrière du chanteur. Il fallait bien une salle de cinéma pour l'évoquer. Elle a été recréée dans l'esprit de la salle de projection privée que Johnny avait dans sa maison de Marne-la-Coquette. Claude Lelouch raconte Johnny, l'acteur, sur grand écran. On s'assoit, il y a sa machine à pop-corn, salée, attention, toute sa collection de DVD, près de 3000. L'occasion de cerner ses goûts, en fait. Citizen Kane, Le Grand Bleu, Gangs of New York, Sixième Sens, Grand Torino, plein de films d'horreur aussi. Les claps de ces films sont exposés. On ne s'attarde pas plus, une sorte de boîte géante nous fait de l'œil. On entre dedans, miroir au sol et au plafond, sur les murs. Les pochettes rétro-éclairées de ces 51 albums sont regroupées. Impressionnantes fresques musicales pour une carrière prolifique de plus de 60 années.
Et Johnny, la bête de scène, occupe une large place dans les 3000 mètres carrés qu'occupe l'expo, Steven.
Oui, dans une salle circulaire, on revit des dizaines de scènes live de l'autre côté du mur. Des dizaines de guitares et près d'une cinquantaine de costumes sont exposés. C'est assez dingue parce que ces tenues de scène, bah, on les voyait de loin, on ne voyait pas les détails quand on allait le voir Johnny sur scène. Et la plupart sont là, de son premier Olympia en 61 jusqu'aux Vieilles Canailles en 2017. Laetitia Hallyday a réussi à racheter depuis la fin des années 90 les costumes égarés et à conserver les autres, les arranger responsables des objets.
Les premières années, on a des costumes beaucoup plus colorés. Dans les années 70, il s'inspire beaucoup d'Elvis. Donc on a des costumes avec des broderies et des pantalons pas de def. Mais vers la fin de sa vie, à partir des années 2000, c'est des costumes beaucoup plus sombres. Et notamment une magnifique de costumes par Chanel pour Rester Vivant Tour en 2015. Mais à partir des années 2000, voilà, c'est exclusivement le noir qui va être porté par Johnny. Il a été habillé par les plus grands couturiers. Il a collaboré avec Yves Saint Laurent, notamment en 71 pour son concert au Palais des Sports, avec Jean-Claude Gittroy, avec Marc Bohan de la Maison Dior, avec Daniel Tribouillard de la Maison Léonard. Enfin, il a travaillé avec énormément de couturiers. Et ce qui fait que chaque tournée a une identité propre grâce à ce travail de collaboration avec les plus grands.
Et on pourrait penser que ça serait plus rock'n'roll aussi à des moments de sa vie, pour le coup, et ça ne l'est pas.
Alors il y a un journaliste dans les années 60 qui a dit à Johnny qui portait un smoking que c'était pas une tenue très rock'n'roll, et il lui a répondu mais le rock'n'roll est quelque chose de très civilisé. Et en fait ça en dit long sur sa vision du costume et de l'esthétique rock'n'roll. Pour lui, ça devait être chic et élégant et pas forcément rock'n'roll au sens où on l'entend, avec des choses un peu grunge, des habits déchirés, etc. Il voulait que ça soit très élégant.
Il y a aussi du Chanel, du Alexander McQueen, du Jean-Paul Gaultier. Cet arc de cercle dédié au costume est sublime.
D'autres objets plus personnels de Johnny vous ont ému également, Steven?
J'ai trouvé fascinant de découvrir ces papiers d'identité français, suisse ou américain, comme si on réalisait que Jean-Philippe Léo Smet, dit Johnny Hallyday, était un homme comme nous. Il y a sa green card qui a fait de lui un américain, son permis de conduire californien, sa carte de la Fédération française de tir. Plus émouvant encore, au fond d'un couloir sombre, la croix en or blanc, sertie de diamants avec un guitariste crucifié, créé par le joaillier Harry Winston, Laetitia Hallyday.
La croix, on l'appelle ça le Graal. C'est une partie de lui, cette croix, que tous les fans connaissent très bien. Là, la voir de très très près, voit chaque détail. C'est une croix que Johnny a dessinée lui-même avec un joaillier et il l'a portée pendant plus de 20 ans à son cou. Et puis tous les bijoux qu'il portait sur scène, qu'il portait dans la vie, sa collection de couteaux que personne ne connaît.
Et c'est par le bureau de Johnny que l'on ressort, on en avait parlé beaucoup, hein. Il a été reconstitué intégralement, centimètre carré par centimètre carré. Il y a les Harley Davidson, il y a la Cobra bleue. Mmh. C'est une belle exposition qui est donc en Belgique jusqu'à cet été, Parc des Expositions à Paris dès janvier 2024.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle sera à Paris
que dans un an.
Oui, elle ne sera qu'à Paris ou elle sera partout en France?
Alors l'idée, c'est que ça parte en tournée, comme les concerts. Et c'est en négociation avec plein de villes en ce moment.
Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne vont pas aller forcément à Bruxelles.
Il faut des grands endroits, ça fait 3000 mètres carrés. Mais ils sont en négo, c'est l'idée de Laetitia, c'est que ça parte en tournée dans toute la France.
Eh bien vraiment, merci,
merci
d'avoir fait le guide, Steven. Le foot dans un instant, avec nos envoyés spéciaux. Vous allez pouvoir les interroger, parler en direct avec eux. A tout de suite.
RTL Midi.
De bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
RTL, vivre ensemble.